Jérémie chapitre 43, verset 7. Alors je situe l'époque, hein, c'est devant la crainte des Babyloniens, hein. Les Juifs essayent de se réfugier en Égypte, une partie va en Égypte. Verset 7. Ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tachpanès. Et là, on va voir un message qui est adressé par Jérémie dans chapitre 44 aux Juifs qui demeurent au pays d'Égypte. Hein, verset 1er, notez verset 3, je résume, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de lire tout ce passage-là. « À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter et en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus d'eux, de vous et de vos pères. » Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ensuite, descendez jusqu'au verset 15. Verset 15. C'est l'Éternel qui parle, hein. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros, répondirent ainsi à Jérémie, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. » Et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous, nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda, etc. Verset 25. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre non seulement ce que tu nous dis dans ta parole, mais des parallèles qui peuvent exister dans ta parole. Et là, nous voyons que ton peuple qui avait la parole de Dieu, n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, s'est détourné de la parole de Dieu pour en faire à sa tête, pour offrir de l'encens et des libations à d'autres dieux et à la reine du ciel. Et nous voyons des parallèles étranges avec la société actuelle, avec la société de cette fin de XXe siècle. Aide-nous à avoir du discernement, Seigneur. Aide-nous à être des hommes accrochés, attachés, ancrés dans la parole de Dieu pour ne pas nous écarter dans la moindre mesure, Seigneur. Nous sommes capables de nous détourner. Nous sommes capables de nous écarter. Aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint et ta parole, à demeurer ancré dans la vérité. Ta parole est la vérité, et c'est elle qui nous sanctifiera, et c'est elle qui nous mènera dans ta volonté bonne, agréable et parfaite, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Nous t'en conjurons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on entend parler d'accord entre catholiques et évangéliques, où tout d'un coup ils se retrouvent pour dire les uns aux autres, oui, vous êtes chrétiens, on se pose la question, est-ce que nos frères évangéliques auraient perdu tout discernement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parfois les inconvertis feraient preuve de davantage d'acuité et de sagacité dans l'analyse de l'air du temps de ce qui se passe? Souvent, moi, je me le demande, hein. Certains évangéliques ne voient-ils pas ce qu'observent pourtant des non-convertis? Ainsi, vous pouvez pas trouver moins séculier que cela, hein. Le Time Magazine, le magazine Time, du 30 décembre 91, constate qu'il y a un véritable retour vers Marie. Constate qu'il y a eu tant d'apparitions, hein, de la Vierge Marie dans le monde, que cette fin de XXe siècle est devenue l'âge des pèlerinages mariaux. En France seulement, il y a 937 lieux de pèlerinage à Marie, dont le plus connu se trouve à Lourdes, évidemment. entre 1961 et 1965, environ 2000 soi-disant visites de Marie se seraient produites à Garabandal, un village du nord-ouest de l'Espagne, accompagné de phénomènes occultes et de messages apocalyptiques adressés au monde. En 1983, des centaines de Palestiniens prétendent avoir vu la Vierge Marie près de Bethléem. L'article du Time relève que de telles apparitions se seraient aussi produites à Dozulé et Kibéo, au Rwanda, à Akita au Japon, au Chili, en Australie, en Pologne, au Canada, près d'Assise en Italie, au Caire, à Amsterdam, à New York, etc., etc. L'incidence est considérable. Des millions croient aujourd'hui que Marie apparaît vraiment. Des millions. Et sont inféodés maintenant à la Marie présentée par le catholicisme et non pas la Marie de la Bible. Lourdes attire chaque année 5,5 millions de pèlerins. La Madone Noire de Częstochowa en Pologne, plus de 5 millions. Fatima au Portugal voit chaque année 4,5 millions de visiteurs du monde entier. Depuis que Jean-Paul II, mariolâtre effréné, hein, et hanté, s'est rendu à Knock en Irlande, le pèlerinage y a doublé, attirant désormais 1,5 million de pèlerins chaque année pour faire face à l'intensification du trafic. Un aéroport international a été construit en 86. Récemment, à Orlando, en Floride, pays de Disney World, c'est Disney World, n'est-ce pas, pas Disneyland, Disney World, à Orlando a été ouvert un centre au nom volontairement provocateur de Marie, Reine de l'Univers. Évidemment, les pays latino-américains, ça fait déjà belle lurette, hein, qu'ils ne sont pas en reste. 20 millions se rendent chaque année en pèlerinage à Mexico, à Notre-Dame de la Guadeloupe. 20 millions. Et leur notoriété, la notoriété de ces pèlerinages est évidemment accentuée par le battage médiatique que l'on observe. C'est incroyable, incroyable ce que la télévision peut apporter comme nouvelle concernant l'Église catholique, Marie et ces choses-là. Et elle ignore évidemment royalement, en tous les cas à ta réunion à Rouen le 7 décembre, ce n'est pas TF1 ni Antenne 2 qui vont faire part. Hein. Mais il y a un battage médiatique extraordinaire et également la complicité des hommes politiques qui veulent se faire voir. Alors ils sont là où les événements se produisent. Le président polonais Lech Walesa s'est rendu en pèlerinage à Fatima, où il a offert des actions de grâce pour la libération de la Pologne. C'est Marie qui a libéré la Pologne. Time rapporte que Jean-Paul II dit ouvertement que c'est Marie qui a démantelé le système communiste en Europe. Selon Catholic World Report, de mars 94, un lieu de pèlerinage serait dédié en plein Moscou à la Vierge de Fatima pour la remercier de la déconfiture du communisme. Mais ce qu'il faut constater, apparition de Marie. Bon, on constate que chaque fois qu'il y a une apparition de Marie, entre parenthèses, elle véhicule un faux évangile. Elle offre de fausses promesses. Elle apporte une confidence trompeuse. Chaque fois, les multiples apparitions s'accompagnent du faux évangile que l'on peut identifier à l'antéchrist. C'est-à-dire, toutes les religions sont fondamentalement bonnes, sont fondamentalement les mêmes et doivent se réunir en une seule pour la paix. Évidemment, sous le giron de l'Église catholique. Toutes ces apparitions présentent un pseudo-évangile écuménique qui peut être accepté par beaucoup de religions, mais en aucun cas le chrétien biblique. Marie aurait présenté, aurait déclaré, alors ça c'est, je regarde mes notes là, à Medjugorje, je n'arrive pas à le prononcer. Voilà. Vous avez la prononciation officielle, hein, d'un spécialiste. Hein. Elle aurait déclaré que chacun adore Dieu à sa manière, la paix au cœur. Ah, mais c'est ce qu'on aime entendre, hein. Je vais adorer chez moi, je vais adorer à la pêche, je vais adorer ce que je veux. Hein. Que chacun adore Dieu à sa manière, la paix au cœur. Oh, bon. Moi, j'ai une Bible qui me dit que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En vérité, en vérité. Ta parole est la vérité. Bon, je fais toutes sortes d'associations, j'arrive à quelque chose de concret. Là, c'est que chacun adore à sa manière. Et le monde aime le subjectivisme, hein, que chacun choisisse ce qu'il veut, chacun sa vérité. Ça, c'est l'ère du temps dans les milieux académiques et dans les milieux religieux. C'est Notre-Dame de... Voilà. C'est en Bosnie? Herzégovine. Elle dit la même chose, hein, depuis je crois plus d'une dizaine d'années. Elle dit exactement la même chose, que chacun adore Dieu, là, à sa manière, à la paix au cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église de Rome, évidemment, approuve cela. Depuis Vatican II, sa conception un petit peu universaliste des choses, oui, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a la vérité, tout le monde est sauvé. Ce sont tous des catholiques qui s'ignorent, hein. L'idéal, c'est pour eux de revenir vers nous. Alors, ces apparitions mariales n'auraient guère d'impact s'il n'y avait le soutien franc et massif du dogme officiel de l'Église de Rome. On enseigne aux catholiques à se tourner vers Marie pour recevoir protection de tout danger et réponse à tout besoin. Et répercutant fidèlement donc les idées de Vatican II, le nouveau catéchisme qu'on a épluché un tout petit peu là, partiellement hier, hein, ce catéchisme catholique déclare « Depuis les temps reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu, les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. » C'est dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique. Ainsi donc, au niveau le plus élevé, le pape, le concile, on attribue à Marie l'autorité et la puissance qui appartiennent à Dieu seulement. À Dieu seulement. Et moi, je ne suis plus étonné de rien. Hein. On étudie l'histoire de l'Église, hein, on voit comment, par palier, l'Église propose des dogmes les uns plus invraisemblables que les autres, hein, l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc. Avec le temps, je ne serais même pas surpris qu'un jour un pape ou un concile décide qu'il y a coégalité là entre Marie et les personnes de la divinité. Hein. Avec le temps. En tous les cas, ils ont fait déjà un chemin considérable pour en faire une mère de Dieu, hein, ce que, évidemment, nous ne pouvons en aucun cas reconnaître. Marie est la mère de Jésus, hein, dans son humanité, le Saint-Esprit l'a conçu, et c'est l'incarnation du Fils de Dieu, mais elle n'est en aucun cas la mère de Dieu. La mère de Dieu! C'est inconcevable qu'on puisse dire une chose pareille. S'il y a une mère à Dieu, il n'y a même plus de Dieu. Hier, nous nous étonnions comment des évangéliques, hein, on était arrivés à considérer les catholiques pratiquants comme d'authentiques chrétiens. Je rappelle que c'est ce qu'on déclarait, ces évangéliques qui ont basculé dans un accord avec des prélats catholiques. Hein. Si un catholique est pratiquant, s'il va à l'église, c'est un chrétien, bona fide, c'est un chrétien. Il faut le considérer comme chrétien, faut pas l'évangéliser. Pratiquant. Vous avez déjà vu des pratiquants en Italie du Sud? Vous avez déjà vu des pratiquants au Portugal? Et ce qu'ils pratiquent, ou au Mexique, est-ce qu'ils pratiquent? Ou en Amérique centrale, est-ce qu'ils pratiquent? Cette pratique-là n'a rien à voir avec l'enseignement des Écritures, n'a rien à voir avec un culte à Dieu, je peux vous le garantir. Il y a des syncrétismes extraordinaires avec toutes sortes de paganismes locaux et universels. Comment les évangéliques en sont-ils arrivés à considérer les catholiques pratiquants comme d'authentiques chrétiens, alors que les prières de ces derniers s'élèvent non pas vers le Créateur, mais vers des créatures? Marie, les saints, que sais-je encore? Alors que ce système est paganisé jusqu'à la moelle, et c'est vrai que ce livre que nous a montré notre frère, là je connais ce livre, et je crois qu'il est disponible dans une paire de librairies. Hein. Pardon? Oui, on nous l'a vend dans la bibliothèque. Mais moi, je l'ai lu. Fiche Bachère là déjà, ça c'est sûr. Fiche Bachère là. Mais je pense que peut-être une autre. Je pensais à la Maison de la Bible peut-être. Mais enfin, toujours est-il que c'était un système qui est paganisé jusqu'à la moelle. Hein. c'est-à-dire qui, au fil des siècles, a absorbé, a tenté de christianiser tous les paganismes, en incorporant hein, les reliques, les images et tous les cultes possibles et imaginables, et en leur donnant une petite connotation pseudo-chrétienne. La Bible constitue la seule autorité du chrétien. Et dans la Bible, nous ne voyons pas une seule prière adressée à Marie. Pas une seule prière adressée à des saints. Pas un seul miracle attribué à Marie pour pouvoir voler au secours de quelqu'un et répondre à ses besoins. Absolument rien. Rien. Pas une seule promesse biblique qu'elle veille ou puisse apporter son aide à qui que ce soit. De la Genèse à l'Apocalypse, la protection, le secours nous viennent de l'Éternel. J'aurais aimé entendre Amen. Des centaines de versets reflètent ce que vous et moi avons découvert depuis le jour de notre conversion et qui est si bien traduit par l'Épître aux Hébreux, hein, chapitre 4, et au verset, vous connaissez ce texte, hein, il n'y a pas de doute, hein, verset 15, verset 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Verset 14, « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Pas Marie. Et pourtant, des milliers, des millions, poussés en cela par une hiérarchie catholique et des compagnons de route qui sont de plus en plus nombreux. J'espère que vous comprenez cette expression compagnons de route. C'est des gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui sont tellement proches hein, qu'ils en deviennent quasiment des copies carbone. Alors, poussés en cela par la hiérarchie catholique, ces compagnons de route, des millions ont procédé à cette tragique substitution où l'on s'adresse à une créature plutôt qu'au créateur et qui relève de l'imposture satanique. Rendez-vous dans une cathédrale. Hein, moi, j'ai dit, je crois que c'était hier, hein, chaque fois qu'il y a un Américain de passage, hein, la première chose qu'il me dit, je voudrais voir Paris. Hein, la Tour Eiffel, Arch of Triumph, et puis Notre Dame. Donc, on atterrit pratiquement chaque fois à Notre-Dame, et là, si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre à Notre-Dame, vous allez vous apercevoir que les gens se prosternent devant toutes sortes de statues. Marie, par-ci, Marie par-là. De toute façon, c'est une église qui est dédiée à Notre-Dame. Toutes les cathédrales de France, pratiquement, sont dédiées à Notre-Dame. Le culte, les prières s'élèvent vers Marie. Je crois que rien ne prépare mieux le monde à la venue du règne de l'Antéchrist que cette mariolâtrie exacerbée de cette fin de siècle. Il y a une conjonction là. Il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. Le sentimentalisme, le relativisme. Il n'y a plus d'absolu là. La Bible n'est plus un absolu. Hein, la vérité n'existe pas. Hein. Ce sentimentalisme, ce relativisme se conjugue pour éloigner l'homme du Créateur et de la vérité. Ne trouvez-vous pas étrange le phénomène grandissant de la féminisation de Dieu? En novembre 93, lors d'une conférence de femmes où étaient représentées les familles majeures du protestantisme, plus de 2000 participantes ont récité une liturgie s'adressant à une déité femelle et se sont jointes dans un rite analogue à la scène où elles partagèrent du lait et du miel en l'honneur de la déesse. Une femme pasteur luthérienne s'y exclama avec jubilation que le nom de Jésus-Christ n'allait pas être prononcé. Tandis qu'un autre responsable ecclésiastique invectiva son auditoire à se débarrasser de l'image du Dieu Père. Un théologien coréen, un nom imprononçable, quant à lui, pressa les chrétiennes à adopter une nouvelle trinité composée de déesses bouddhistes, hindoues et une déesse quasiment inconnue des Philippines. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Dans une église à New York, on y exhibe sur un crucifix une femme à demi nue. Les versions de la Bible sont soit démasculinisées, hein, pour devenir neutres quand on parle de Dieu, ou même maintenant féminisées. Alors le catholicisme a déjà une bonne longueur d'avance sur tout le monde, parce qu'il s'est constitué une quasi-déesse depuis des siècles. Marie y est déjà adorée. Alors je sais. Les prélats, l'Église va dire non, on ne l'adore pas. On ne l'adore pas, on la vénère. Distinction tellement tenue hein, qu'elle échappe à tout le monde. En tous les cas, elle échappe aux catholiques de base, hein. Vénération, adoration, hyper du lit, là, pour Marie, elle échappe. Et donc, la Marie du catholicisme, pas la Marie de la Bible, la Marie du catholicisme fait des conquêtes en dehors du catholicisme également. Et ça, c'est plus subtil, mais c'est moins connu. Alors, s'il est relativement facile hein, de voir comment des bouddhistes, avec leur panthéon, là, des hindous avec toutes leurs déesses également, le nouvel âge ouvert qu'il est aux apparitions spirites, les libéraux, hein, ou les catholiques, ou quelques protestants, hein, que ceux-là peuvent, à travers une déesse féminine, se fédérer, ça nous semble tout à fait concevable. Mais on se dit, mais comment ils vont faire pour l'islam? Et pourtant, c'est là où ça devient inquiétant. Le magazine catholique, un magazine catholique anglais qui s'appelle Tablet, rapporte, écoutez bien, qu'un réveil marial se propage à travers l'Afrique avec des apparitions de la Vierge Marie qui trouveraient un écho favorable chez les musulmans. Le Christian World Report de mai 92 informe ses lecteurs que des musulmans africains ont affirmé avoir vu des apparitions de la Vierge Marie et qu'elle ne leur a pas demandé de cesser d'être musulmans. Hein? Donc, tout en réclamant fidéisme à sa personne, hein, elle ne les presse pas de sortir de l'islam. Donc, un culte à Marie, à l'intérieur de l'islam, devient possible. L'organe catholique, Our Sunday Visitor, de mai 94, souligne les honneurs dont le Coran entoure Marie et établit un lien particulièrement intéressant entre Marie et Fatima, la fille préférée de Mahomet. Et là intervient certainement un évêque que mon ami Kim Fox connaît bien, parce qu'il passait à la télé constamment là-bas, Fulton Sheen. Hein, tu le connais aussi, Fulton Sheen? Cet évêque prédit dans l'un de ses livres que l'islam se convertirait au christianisme quand les musulmans seraient convaincus de vénérer la mère de Dieu. Et voici ses arguments. Le Coran consacre beaucoup de passages à la Vierge bénie. En premier lieu, le Coran croit en son immaculée conception. Alors là, j'ai cherché dans le Coran partout, tous les passages qui faisaient référence à Marie, et je vois pas ce qui a pu lui laisser croire cela. Mais en premier lieu, dit-il, le Coran croit en l'Immaculée Conception et aussi à sa naissance virginale. Marie est donc pour les musulmans la véritable Saïda ou Dame. La seule rivale, dit Chine, qu'on puisse trouver à Marie dans les croyances musulmanes est Fatima, la fille de Mahomet. Toutefois, dit Chine, après la mort de Fatima, Mahomet lui-même a écrit « Tu seras après Marie » la plus bienheureuse des femmes au paradis. Fin de citation. Donc, Chine trouve aussi remarquable le fait que l'apparition de la Vierge se soit produite, hein, avec une grande opportunité, là, dans le village portugais de Fatima. Fatima étant, évidemment, le nom de la fille de Mahomet. Hein. C'est un village qui porte ce nom depuis l'occupation arabe. Vous n'ignorez pas que les Sarrasins, hein, ont été dans la péninsule ibérique jusque très tardivement. Là. Un trimestriel, qui est consacré donc entièrement à ces histoires de Fatima, et qui s'appelle le Fatima Crusader, déclare, sur un ton factuel, que quand la statue de Notre-Dame de Fatima est emmenée en procession dans des contrées musulmanes d'Afrique, des Indes et d'ailleurs, des musulmans par centaines de milliers viennent l'adorer. Je répète, viennent l'adorer. Ils ont dit adorer, ils n'ont pas dit vénérer. Ils ont dit adorer, viennent l'adorer. À Bombay, en seulement 2 jours, 500 000 d'entre eux vinrent rendre hommage à l'idole. Alors, Marie bénéficie surtout du travail incroyable que fournit ce pape polonais, qui est sans cesse, qui prend son bâton là, constamment, il est constamment sur la route. Et nul n'est plus convaincu que Jean-Paul II, en réalité je pense pas qu'il soit hypocrite à ce sujet, mais nul n'est plus convaincu que Jean-Paul II de la légitimité des apparitions, qu'elles soient à Fatima ou ailleurs. D'ailleurs, aucun pape n'a été plus dévoué à cette mariolatrie que Jean-Paul II. Aucun. Il s'est consacré lui-même et il a consacré son pontificat à Notre-Dame. Déjà, notre frère Samuel Boada, on avait parlé. Son blason porte le M de Marie. Sa devise personnelle, ça c'est un petit détail qui a échappé à Samuel, je crois. Elle est brodée à l'intérieur de ses vêtements, de ses soutanes, blanches là en général, et elle dit ceci, oh non, c'est du latin, totus tuus sum Maria, Marie, je suis tout à toi. Marie, je suis tout à toi. Il affirme, Jean-Paul II, qu'une vision lui a révélé les raisons de sa survie après l'attentat dont il a été la victime. Une mission universelle de paix. Jean-Paul II a consacré le monde à Marie comme elle lui avait demandé. En décembre 85, il l'a fait publiquement à Notre-Dame de Fatima pour l'effondrement du communisme. N'avait-elle pas dit que si les papes et les évêques consacraient le monde et la Russie à son cœur immaculé, je cite, « Mon cœur immaculé triomphera, la Russie se convertira, et il y aura la paix. » Il faut vraiment vivre sur la planète catholique romaine pour ne pas voir les contradictions flagrantes de toutes ces prétentions de soi-disant apparitions avec l'enseignement univoque de la parole de Dieu. Qui est-ce qui accorde de la paix? La paix individuelle. Romains 5, 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » La paix individuelle nous vient de Dieu, par Jésus-Christ. La paix universelle, elle existera, mais c'est pas encore pour aujourd'hui, c'est pas encore pour demain. Moi, je ne sais pas, je vais pas me prononcer et dire quand est-ce que le Seigneur reviendra. Mais c'est sûr que dans le royaume, lorsque Jésus-Christ viendra établir son royaume, alors à ce moment-là, il y aura la paix. Et c'est Jésus qui établit cette paix. C'est l'Éternel qui établit cette paix. Au lieu, Ésaïe 60, verset 17 et suivant, là. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, est-ce que c'est le bon passage? Je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Verset 18. J'avais pris un. Ah oui, je ferai régner, verset 17, la dernière partie. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Donc, quand on parle de paix individuelle, c'est Christ qui nous l'apporte. Il est notre paix. Il est le prince de la paix. Quand on parle de paix au niveau mondial, il n'y a que Christ qui puisse l'apporter. Donc, nous voyons encore une fois de plus que la Marie du catholicisme, celle que nous présente cette religion, usurpe la place du Christ systématiquement, et je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Lord lorsqu'il dit, chaque fois qu'il y a un groupe quelconque qui minimise la personne de Jésus-Christ ou le ministère de Jésus-Christ, soit sa divinité ou son humanité, soit son ministère plein et entier dans l'œuvre d'expiation, sur la croix, chaque fois que vous avez un tel groupe, vous avez affaire à une secte, qu'elle s'appelle catholique ou témoin de Jéhovah. Chaque fois que l'on arrache à Christ les prérogatives et la gloire qui lui est due, vous avez affaire à une secte. Et là, on usurpe la place du Christ. De toutes sortes de manières. Les prières s'adressent à Marie plutôt qu'à Christ. Le regard des gens dans le catholicisme se tourne vers Marie plutôt que vers Dieu, plutôt que vers Christ. On pense que c'est elle qui peut apporter secours à nos besoins, qui peut nous apporter la paix individuelle, la paix universelle. Le pape actuel et l'Église romaine soutiennent la pire des hérésies qui soit. Et il est vrai que Rome joue ici sur un registre humain favorable. Trouver aux problèmes mondiaux des solutions qui occultent complètement le Christ. C'est le Christ qui fait opprobre. Marie, non, c'est une des nôtres. Mais le Christ fait opprobre. Prétendant que le Seigneur lui a confié la paix du monde, les apparitions, alors je cite particulièrement celle de la Vierge de Fatima, a offert un plan de paix, la Vierge de Fatima, là, les apparitions, a offert un plan de paix singulièrement en contraste avec celui du Christ et des apôtres. Dans un livre qui a été écrit à ce sujet, et qui dit, alors c'est un livre en anglais, il n'existe pas en français, vous pensez que celui qui va éditer ça en français, il a intérêt à se planquer. Ça s'appelle, je fais la traduction, le plan céleste de Notre-Dame, le plan céleste pour la paix de Notre-Dame de Fatima, ça c'est le titre du livre. Alors, le plan de paix, le voilà. Réciter le rosaire chaque jour pour obtenir la paix du monde. Priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer du fait que personne ne fait des sacrifices ni ne prie pour eux. Ils vont en enfer parce que ils ont rejeté, repoussé, ignoré, négligé le plan du salut. Christ comme sauveur. Alors, elle ajoute, toujours dans cette apparition de Fatima. Dieu souhaite établir dans le monde une vénération envers mon cœur immaculé. Si les gens font ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. Où est passée la foi repentante, là? Où est passée la foi en Christ le Rédempteur, Où est passée la foi dans celui que même les Samaritains reconnaissaient comme le sauveur du monde? Le seul sauveur, le seul chemin, où il est passé? Il y a un esprit de séduction. C'est un esprit de séduction. Il s'est exprimé. Il s'exprime constamment. C'est très, très subtil. Très, très subtil. Et c'est ce que je vois dans ces apparitions. C'est vrai qu'il y a parfois un côté charlatan, ça y est, on va se créer un pèlerinage dans cette ville et puis ça va attirer beaucoup de gens. Il y a peut-être des aspects charlatans, ça et là. Mais je suis convaincu aussi qu'il y a des choses qui relèvent du spiritisme. Et depuis près de trois quarts de siècle, tous les papes, sans exception, ont honoré Notre-Dame de Fatima, alors qu'elle a exprimé la dénégation la plus abominable qui soit. C'est-à-dire, ces apparitions ont parlé de l'insuffisance du sacrifice du Christ. Alors, évangélique, là, réveillez-vous, quand un monsieur catholique vient vous dire, allez, on est frères. Si on faisait les choses ensemble, ça donnerait une meilleure image de marque de la chrétienté, là, à une société séculière. C'est un petit peu le langage qu'ils tiennent, On doit s'unir, là, pour faire front à l'athéisme, etc. Au lieu d'honorer le Fils comme on honore le Père, c'est-à-dire avec la même adoration absolue, c'est dans Jean ça, il faut honorer le Père comme le Fils. L'esprit de séduction de Fatima demande aux hommes qu'ils vénèrent un mythique cœur immaculé. Déjà l'idée de ce cœur immaculé, pour que les hommes soient sauvés et pour que la paix règne. Alors dans un autre livre qui a été écrit, c'est une biographie là, par l'une des jeunes filles, et c'est très étrange là. Je sens que je vais me faire des ennemis là parmi mes sœurs. Mais pratiquement, Pratiquement l'essentiel des apparitions de la Vierge ont été faites à des jeunes filles nubiles. Pratiquement. Et dans un livre qui a été écrit par Lucia, donc l'une des témoins de ces apparitions à Fatima, elle nous rapporte les déclarations de cette apparition, d'autres prétentions qui me semblent ahurissantes. Je ne vous délaisserai point. Mon cœur immaculé sera votre refuge et le chemin vous menant vers Dieu. Le chemin vous menant vers Dieu. Jean 14, 6 dit que Jésus-Christ est le chemin et nul ne vient au Père que par lui. Elle ajoute, sacrifiez-vous pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés connus contre le cœur immaculé de Marie. Je suppose que ça doit être les péchés des protestants et des évangéliques, là, qui refusent de vénérer le cœur immaculé. Je promets de secourir à l'heure de la mort de toutes les grâces nécessaires au salut tous ceux qui, alors voilà le plan, attention, le premier samedi de 5 mois successifs iront se confesser, recevront la Sainte Communion, réciteront 5 dizaines de rosaires, me tiendront en compagnie pendant 1 quart d'heure en méditant les mystères du rosaire avec l'intention de m'apporter réparation. Voilà le plan. Moi, je connais un autre plan. Il m'a été donné par Jésus-Christ. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que l'on mesure le caractère anti-biblique de tout ce qui est dit par cette apparition? Le rosaire est constitué de 6 Notre Père, donc la prière du Seigneur, celle qu'il a apportée pour nous montrer comment prier, pas quoi prier, mais comment prier. Il le dit lui-même, voici comment il faut prier. Notre Père, qui est aux cieux. Donc le rosaire, c'est 6 Notre Père, 53 Je vous salue Marie. Ah! Et vous vous dites, bon, quel est le problème? Eh bien, c'est une forme de lavage de cerveau, ça. Vous répétez 53 fois la même chose, et 6 fois seulement d'un autre côté. Qui est-ce qui va prendre une place de plus en plus prépondérante dans votre cœur et dans votre vie? Qui? C'est pas aussi anodin, c'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Ce sont d'habiles stratèges, les jésuites et les autres. Savez-vous ce que cela va produire dans le subconscient, simplement, de millions de pauvres catholiques? Une disproportion éhontée d'importance de la créature par rapport au créateur de toutes choses. Jean-Paul II, de son côté, insiste que, plus que jamais, le message de Fatima s'adresse à tout être humain. Il est plus important, il est plus urgent que jamais. Or, pour ceux qui l'ignoreraient, lors d'une première apparition en 1925, une des premières apparitions, cette Vierge serait apparue donc à Lucia avec l'enfant Jésus. Jésus est toujours un gosse. Il est toujours le petit là qu'il faut aider, il ne peut pas faire grand chose. Mais là, l'enfant aurait parlé. Et l'enfant lui aurait dit, ayez pitié du cœur de votre sainte mère, il est couvert d'épines par lesquelles des ingrats le perdent continuellement, et il n'est personne pour les enlever dans un acte de réparation. Fin de citation. Remarque. La Bible me dit que Christ est à la droite du Père. La Bible me montre dans le livre de l'Apocalypse un Christ triomphant. C'est pas un petit gosse innocent, dans les bras d'une mère qui est obligée de le pouponner. Il est à la droite du Père, il est le souverain de l'univers, il est le Seigneur. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réparation à Marie? D'où est-ce que ça vient, cette histoire? Réparation à Marie. Il n'est personne pour les enlever dans un acte de réparation. Et je pourrais vraiment multiplier les exemples de ces propos blasphématoires tenus par les différentes apparitions. Que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes, que ce soit... Mettre quoi? Alors, lors de cette apparition-là, en Bosnie-Herzégovine, en 82, elle aurait dit ceci. Écoutez bien, il y a de nombreuses âmes au purgatoire depuis longtemps pour lesquelles nul ne prie. Dieu a placé son entière confiance en moi, et là il y a tout de suite un verset qui me dit, voici mon fils bien-aimé, hein, en qui j'ai placé toute ma confiance, hein. Mais là, Dieu a placé son entière confiance en moi, je protège surtout ceux qui se sont consacrés à moi. Et au printemps de 83, elle a ajouté, Dieu, tenez-vous bien, parce que là on a la clé du nouvel âge, hein. Dieu permet aux âmes du purgatoire de se manifester à leurs parents sur la terre pour leur rappeler l'existence du purgatoire. Ouf! Alors là, on est en plein spiritisme. C'est du spiritisme. Je n'ai pas d'autre terme. C'est du spiritisme. L'Église catholique est engagée dans le spiritisme. Donc, si vous voulez avoir une petite idée de l'histoire, hein, parce que nous, on a une conception très distordue des choses en ce qui concerne Croatie et Serbie. Moi, j'ai de petites lumières là-dessus. Je sais que les Croates étaient du côté allemand, tentant d'écraser les Serbes qui étaient du côté des Alliés. Hein. Il y a un passé là, hein, qu'on ignore complètement et que les médias ignorent complètement. Ils font mine de manifester qu'un agresseur contre les autres. On ignore complètement le reste. Je veux en revenir à ce que j'étais en train de dire là. C'est que on est en plein spiritisme là. Et plus que jamais, il faut nous souvenir, hein, des mises en garde bibliques. Je pense à celle de l'apôtre Paul qui disait, dans les derniers temps, hein, 1 Timothée chapitre 4, vous connaissez ces textes-là, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi objective, là, les saines doctrines, pour s'attacher à quoi? Ah, des esprits séducteurs. C'est pas une autre philosophie, là, c'est pas une religion plus gentillette, là, avec un système d'éthique. Non, 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 non. Des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Alors, ce nouvel ordre mondial se met en place, et depuis Vatican II, hein, j'ai acheté tous les décrets des conciles, hein, parce que je voulais être informé sur ces questions-là et ne pas dire n'importe quoi. J'ai même songé un moment, mais j'y ai renoncé à cause du prix et puis de l'utilité, j'ai même songé un jour acheter tout ce que les papes avaient émis en bulle. Alors, je me serais amusé, là. Hein. Donc, non, c'est trop. Hein, c'est comme si quelqu'un voulait maîtriser les Targum là et la Mishnah et la Midrash des Juifs, là on s'en sort pas. Hein. Mais depuis Vatican II, sans rien renier de toutes les fausses doctrines accumulées au fil des siècles, sans jamais dire nous avions tort de prononcer l'anathème là contre les protestants et contre les évangéliques, etc. Sans demander pardon aux millions d'êtres humains qui ont été massacrés à son instigation, l'Église catholique romaine s'efforce d'assimiler les autres religions en présentant un visage souriant. Le pape est très affable. Son regard, on voit un homme humble, presque soumis, très gentil. Permettez-moi l'expression, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais l'Église catholique romaine s'efforce d'assimiler les autres religions, c'est son objectif. Ça a été l'éradication, ça n'a pas marché. Donc, changement de stratégie, assimilation, incorporation. On va attirer les braves frères égarés, qu'ils soient évangéliques, protestants, et même les autres, là, les juifs et les musulmans, et puis les bouddhistes. Vous êtes tous des catholiques ici, là, revenez. Il y a un chef spirituel, c'est le pape. Et le pape prétend cela. Il y a un chef spirituel dans le monde, c'est le pape. Alors, observez ce que se fait ce pape. Hein? Il peut aller rendre visite au chef d'une junte militaire en Argentine, ignorer les femmes qui, dans la rue, hein, crient justice pour leurs milliers de disparus. Il peut serrer la main d'un Arafat, d'un Gorbatchev, de Clinton, de n'importe qui. Il peut aller n'importe où, chez n'importe qui, et offrir le spectacle de cet homme. Alors il se comporte en suzerain, c'est les autres qui lui baissent la main, là. Il se comporte en suzerain, mais toujours avec ce visage affable, humble, souriant, etc. Mais, venez. Alors dans la période des tribulations à venir, hein, dans un premier temps, comme ça a été démontré par plusieurs orateurs, je ne vais pas me lancer là-dedans, j'ai pas le temps d'ailleurs. l'Antéchrist se reposera en grande partie sur cette Église apostate, et je suis convaincu que l'Église apostate aura une forte coloration catholique, avec évidemment les autres religions écuméniques, hein, qui sont en train de dire abandonnez vos différences doctrinales, venez, on se fonde dans quelque chose là. Faut vu qu'on soit unis. Hein, le Concile mondial des Églises, c'est ça, hein, c'est l'unité visible. Oubliez tout le reste. Oubliez tout le reste. Hein. Et il ne faut pas oublier que le catholicisme attire les hommes politiques maintenant. Attire les hommes politiques. On constate aujourd'hui que les nations s'efforcent d'entretenir de bonnes relations avec ce qu'il convient d'appeler la plus puissante organisation internationale en dehors des Nations Unies. C'est la seconde, hein, il n'y en a pas d'autre. Et ils ont probablement le meilleur service d'espionnage, ils ont le meilleur service de renseignement qui soit. L'ambassadeur américain, puisqu'il y a des ambassadeurs, hein, ils se sont décrétés État, hein, l'État du Vatican. Donc ils ont des ambassadeurs, et puis eux envoient des nonces apostoliques, c'est-à-dire des ambassadeurs auprès de chaque pays. Il y a un ambassadeur du Vatican en France, qui constamment a des contacts avec Monsieur Chirac, avec Monsieur Jospin et les membres du gouvernement. Donc, mais l'ambassadeur américain auprès du Vatican a dit « Les liens entre le Vatican et les États-Unis sont extraordinairement, ce sont ces mots, hein, ce n'est pas les miens, hein, sont extraordinairement importants. Il y va de notre intérêt national. » Moi, je pensais que c'était avec la Chine ou je ne sais pas qui. Non, non. Il y va de notre intérêt national d'entretenir avec le Vatican des relations diplomatiques fortes. Clinton en est persuadé, hein, qui non seulement est venu à la rencontre du pape à Denver, mais s'est rendu moins d'un an plus tard au Vatican pour rendre hommage au pape. Et l'organe du Vatican, évidemment, en a profité, hein, et dit ceci à propos du nouvel ordre mondial. Écoutez bien, de Rome à Washington, les analystes de géopolitique parlent d'une nouvelle alliance entre la puissance militaire incontestable des États-Unis et le leader incontesté de la spiritualité, le pape. Avec Jean-Paul II, comme jamais auparavant au XXe siècle, le pape se pose comme le chef spirituel par excellence, le fédérateur de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, croient en quelque chose, là, que ce soit un morceau de bois ou le Dieu trinitaire, hein. Il se pose aussi comme celui qui est le garant de la paix universelle, puisqu'il va pouvoir garantir la paix religieuse, il y aura la paix politique. Et Jean-Paul II se dit investi par Marie de cette mission de paix. Alors, Robert Mueller, qui était assistant du secrétaire général de l'ONU en 93, a déclaré ceci. Je ne sais pas si ça s'est fait, je me suis raclé le cerveau pour le savoir, je ne sais pas si ça a pu se faire. Vous me répondrez. Cet homme, qui était assistant du secrétaire général de l'ONU, a dit « Nous avons besoin d'une spiritualité cosmique ou universelle, donc une religion mondiale. Je souhaite que les chefs religieux se réunissent et définissent les lois cosmiques propres à toutes les fois. » Il ajoute « Nous devons espérer aussi qu'avant l'an 2000, le pape vienne aux Nations Unies pour parler au nom de toutes les religions et spiritualités de la planète et donner au monde la perspective religieuse d'un troisième millénaire devant être un millénaire spirituel. » Malraux avait dit cela déjà. Hein. Troisième millénaire ne sera pas, ou sera spirituel ou ne sera pas. Hein. Mais on voit les convergences là. Hein. Et puis on peut s'interroger, depuis quand le pape a-t-il mandat pour parler au nom de toutes les spiritualités? Alors, de manière parallèle, vous avez le Concile mondial des Églises, et lors de sa cinquième conférence sur la foi et l'ordre, il a confirmé ses objectifs. Ses objectifs, c'est une Église universelle, pas forcément unie dans la foi, puisqu'on ne peut pas, mais unie structurellement. Et la résolution suivante a été adoptée. Plus question de revenir en arrière, ni sur la nécessité d'un mouvement œcuménique unique, conjuguant des préoccupations sur l'unité de l'Église, ni sur celle des luttes de l'humanité. Ainsi, l'Église universelle doit travailler en partenariat avec les gouvernements mondiaux pour des problèmes sociaux. Et vous savez que le point de départ qui a uni nos fameux signataires, là, nos fameux co-signataires, hein, c'était des combats politiques et moraux. Hein, ils se sont battus contre l'avortement, contre l'homosexualité, pour la majorité morale, etc. Alors, la Bible nous révèle, hein, et je termine, je l'avais promis il y a 10 minutes, que le mariage de convenance entre ce pouvoir religieux et le pouvoir politique se fera. Et elle nous révèle qu'un jour, le pouvoir politique, ayant utilisé, manipulé le pouvoir religieux comme on l'avait fait, le pouvoir religieux avec le pouvoir politique, ce pouvoir politique écrasera, détruira cette église apostate. Mais ce qui me, j'allais dire comble d'aise, et vous allez me prendre pour un méchant sans compassion là, mais ce qui me comble d'aise, c'est que le livre de l'Apocalypse nous dit que l'Antéchrist et le faux prophète iront rejoindre Satan là, dans les temps de feu, ou c'est Satan qui ira les rejoindre dans les temps de feu. Alors, mais cette fausse religion, moi je suis personnellement convaincu que la mariolatrie va devenir un élément clé pour y parvenir. Le spiritisme, le nouvel âge et toutes ces choses aidant, les religions vont s'ouvrir de plus en plus aux esprits. Il y a déjà un paquet d'évangéliques ouverts aux esprits, et pas forcément aux véritables esprits. Le pape actuel a déjà largement contribué à cela. Le Concile mondial des églises va dans le même sens que les églises chrétiennes, que les chrétiens, que les véritables adorateurs du Seigneur se souviennent de la voix qui vient du ciel et qui dit « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Seigneur notre Dieu, merci de ce que nous ayons, la parole de Dieu. Et c'est vrai, comme disait notre frère Lord, nous ne voulons pas idolâtrer la parole, nous ne voulons pas faire de la parole de Dieu un objet de fétichisme. Mais Seigneur, c'est ta révélation qui t'est exprimée à travers ce saint livre de la Genèse à l'Apocalypse. Tu nous as révélé le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu nous as montré quelles devaient être nos relations les uns avec les autres, les chrétiens au sein d'églises locales, vivantes, bibliques. Tu nous as révélé, Seigneur, les rapports que nous devions entretenir avec les inconvertis. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il s'agit pour nous d'évangéliser, de faire connaître la bonne nouvelle aux âmes précieuses pour lesquelles Christ a versé son sang. Il s'agit pour nous d'être les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous laisser séduire et croire qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a d'autres chemins. Nous ne pouvons pas nous laisser séduire par les artifices de la religion. Aide-nous, Seigneur, à être avec beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de compassion et de patience, des témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être plein de discernement. Les temps sont troubles. Les temps sont difficiles. Que ton Esprit Saint nous conduise constamment vers ta parole pour y trouver la vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.